Sport, Céline Géraud.
Europe 1. Ah oui, les petites balles, ce petit bruit qu'on adore. Silence, s'il vous plaît. Europe 1, et je vous le rappelle, radio officielle du plus prestigieux tournoi sur terre battue. Et on va se poser, allez, 30 minutes pour faire le tour de l'actualité tennis. Il y en a beaucoup avec le début des qualifications. Et pour en débattre, la belle équipe de super-héros, Benoît Mélin et Julien Pichenet de Winamax. Bonsoir les garçons.
Bonsoir Céline.
Bonsoir à tous.
Bonsoir à tous. Vous êtes en grande forme, hein, ça fait plaisir.
Oui. Ah bah, tous les ans, à la même période, il y a cette excitation, comme vous le disiez. Effectivement, en plus, il fait beau ce soir. Ça y est, c'est parti.
C'est
ouais,
parti.
Le pollen. Il manque le petit cri. Là, on avait les balles, mais on n'avait pas les.
Tu sais,
les.
Tiens, ah, ah. Tu vois une Monica Céleste, quoi, un peu.
Oh non, Monica,
oh non.
C'est rien du tout, Monica.
Si, je le fais bien ou pas?
Ah oui,
je l'ai. Ces qualifications donc ont débuté lundi. C'est une semaine pour tout casser, pour accéder au tableau final. Une opportunité géniale pour une tripotée de petits nouveaux, de pépites. Mais ces qualifs, c'est aussi une extra balle pour d'anciennes superstars du top 100, voire du top 10. Et alors, est-ce que le tennis est une machine à broyer des joueurs qui finalement retrouvent une seconde vie dans ces qualifications ou pas? Je veux bien sûr parler de Kenin, de Pouille, d'Osaka, de Per, ça passe ou ça casse. On va se poser la question. Pour preuve, on va parler quelques minutes de Lucas Pouille, 29 ans. Il a été numéro 10 mondial, si je ne me trompe pas, qui priétine aujourd'hui autour de la 670e place. Et qui a dû batailler, Julien Pichenet, pour passer le premier tour.
Il dit qu'il ne regarde plus son classement, Lucas Pouille, tellement il est loin, effectivement, de la 10e place qu'il a occupée il y a quelques années. Et il a dit aussi que c'était la plus belle victoire de ses 4 dernières années pour lui. Il a battu un joueur qui s'appelle Matchak, qui est à peu près 130e. Mais c'est vrai que c'était pour lui inespéré, parce que cette année, il n'a rien fait. Mais quand je dis rien, c'est rien. Il a joué des challengers, il a été à l'autre bout du monde pour essayer de jouer des petits tournois et de se refaire une santé. Ça n'a pas marché. Donc voilà, pour lui, passer... Je vais éclaircir mon chat dans la gorge. Pour lui passer le premier tour des qualifications à Roland-Garros, c'est une victoire incroyable. En plus, sur un grand cours, le cours 14, qui lui rappelle des souvenirs devant sa famille, devant ses proches. Bon, il n'y avait plus grand monde parce qu'il était tard. Il y avait Benoît Mélin et une dizaine de personnes encore, à peine plus, aux alentours de 22h30 quand c'est...
Oui.
Un petit peu plus même d'ailleurs, quand c'est arrivé. Mais effectivement, c'est à double tranchant pour Lucas. Est-ce que le tennis broie ses joueurs? Pour Lucas, ça peut être une renaissance si jamais il venait à sortir de ses qualifications. C'est sûr que ce serait tellement inattendu que ce serait merveilleux pour lui, comme ça peut être aussi d'une tristesse absolue si jamais il perdait au deuxième tour. Ça peut être très dur. On a déjà vu des anciennes gloires dans les qualifs de Roland-Garros perdre très tôt. Je me souviens en 2012 de Gaston Gaudio qui avait gagné 2010, Gaston Gaudio qui avait gagné le tournoi 6 ans plus tôt, qui termine sa carrière dans les qualifs de Roland-Garros,
c'est
un ancien
triste,
vainqueur. Sur le cours 14, devant 100 personnes, qui perd contre un Brésilien. C'est le match le plus triste que j'ai jamais vu en 35 ans de tennis. Voilà, je ne sais pas ce que je souhaite à Lucas Pouille, mais d'un autre côté, ça peut être aussi effectivement, parce que c'est l'enfer, les qualifs. Hein, c'est terrible.
C'est une jungle, quoi. C'est
l'Amazonie.
C'est
une jungle,
quoi.
Entre des joueurs qui sont entre la 100e, la 300e place toute l'année, qui n'ont pas la possibilité de gagner des sommes, parce qu'il faut parler d'argent avec les qualifs, qui n'ont pas la possibilité de gagner ces sommes-là. Il faut rappeler que c'est 69 000 euros pour celui qui sortira des qualifs, même si après il perd
au premier tour du tableau principal.
Donc c'est une soupape énorme, ce serait une bouffée d'oxygène énorme, donc c'est l'enfer. Donc
oui,
voilà,
mais alors
si jamais
Pouille,
il s'en sort, c'est énorme.
Julien, vous le dites très bien, vous racontez très bien l'histoire. La plus belle victoire de ces 4 dernières années, c'est une traversée du désert abominable. Comment est-ce que Lucas Pouille, qui était numéro 10 mondial, on le rappelle, qui était dans le tableau principal donc, de Roland-Garros régulièrement, se retrouve au fin fond d'un classement, en train de galérer pour revenir Est-ce que c'est le lot de certains joueurs à qui il manque un petit truc pour ne pas se faire broyer justement par la machine, ou est-ce que c'est la tombola et ça tombé sur lui?
Il y a plein de choses, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce côté psychologique, on n'en parle pas, le mental, mais c'est terrifiant le mental dans le tennis, hein, c'est quelque chose, on s'en rend pas compte. Alors il y en a qui ont réussi à mettre en place des préparateurs qui les aident depuis qu'ils sont jeunes ou un peu moins jeunes, et puis on commence à en voir de plus en plus sur le circuit, qui essayent de leur donner des clés pour pouvoir justement supporter cette pression, pas du match en fait, c'est toute la pression qu'il y a autour du match, c'est-à-dire la famille, les attentes, les sponsors, les obligations. Et on se rend compte effectivement qu'un Lucas Pouille, un moment ou un autre dans sa carrière, était annoncé comme celui qui allait nous faire une finale dans un tournoi de Grand Chelem, qui battait Nadal à l'US Open dans un match complètement fou. On se disait, ça y est, c'est bon, on en a un, on l'a, et il n'y en a qu'un. Et donc automatiquement, tous les regards sont braqués sur lui, et puis arrive bah, automatiquement, les sponsors, l'argent, beaucoup d'argent, il faut savoir gérer ça aussi, c'est pas simple. Il ne faut pas partir dans n'importe quoi quand on a 21, 22 ans, 23 ans, qu'on n'a pas l'habitude de ça.
Et tout d'un coup, il a 29 ans aujourd'hui. Hein,
donc, et oui, mais justement, c'est ça le problème.
4 années lui ont coûté cher, quoi.
C'est que souvent, on s'en rend compte après. On se dit, bah, comme Gaël Monfils, aujourd'hui, hein, s'en rend compte, il le dit, bah, quand on est dans les 30 ou 50 premiers mondiaux, bon, voilà, on joue régulièrement. On joue toutes les semaines, on a notre petit niveau, on gagne de l'argent, on est bien, voilà, ça coule tout seul. Et puis, dès qu'il y a un petit pépin et qu'on sort de là, ben pour revenir, c'est terrible, on n'y arrive pas. Et on se met une pression monumentale pour essayer de retrouver ce niveau, ben malheureusement, qu'on a eu un moment. Mais est-ce qu'on peut le retrouver, ce niveau-là? Et avec l'âge, avec tout ce qu'il y a autour, ben des fois, ce n'est pas simple.
Alors, bonne pioche pour Lucas Pouille, mais mauvaise pioche, en revanche, pour l'américaine Sophia Kenin, finaliste à Roland-Garros en 2020. Battue d'entrée dans ce tableau des qualifs par une Française, Julien Pichenet.
Oui, donc c'est triste pour elle, mais c'est
bien
pour
elle.
C'est une belle histoire pour la jeune Française qui a gagné, mais là, c'est pas tout à fait la même chose avec
Rouvroy,
Margot Rouvroy, effectivement.
278e mondiale, pour le coup, elle, voilà, c'est l'opposé. Quoi.
C'était aussi sur le court 14, et d'ailleurs, c'était juste avant Lucas Pouille.
C'est le court qui porte bonheur ce soir.
C'est le court que le public de Roland-Garros préfère. Il est tout au bout du stade, on y est bien. Il est grand, c'est un court qui est un petit peu.
Semi-enterré.
Semi-enterré, il y a une ambiance de dingue. On se croirait à Rome autour du court Pietrangeli, c'est un petit peu la même configuration. Et le public de Roland-Garros l'adore. Si vous allez à Roland-Garros cette semaine, la semaine prochaine, allez sur ce cours. Kenin, c'est pas tout à fait la même histoire qu'un Gaston Gaudiot, par exemple, qui termine sa carrière dans les qualifs, dans l'anonymat, parce qu'elle est encore assez jeune. Là, elle tente un comeback. Ça va à peu près, parce qu'elle a quand même des bonnes perfs à Rome. Elle a sorti Zabalenka. Voilà, bon, elle perd là au premier tour de Roland-Garros. C'est un petit accident. Elle va revenir. On va la revoir sans doute dans le top 100 très bientôt. Donc voilà, c'est pas tout à fait la même histoire, ni même que Lucas Pouille. On n'est pas du tout dans la même chose.
Non, mais après, il y a les blessures aussi. Faut...
Oui.
Le tennisman, c'est pas un joueur de foot qui est embauché dans un club. À partir du moment où il se blesse, il peut plus jouer, il a plus de revenus. Il faut qu'il se débrouille tout seul pour essayer de se remettre en état. En général, c'est ce qu'on dit. Si vous êtes arrêté pendant 3 mois, eh ben, il va falloir à peu près encore 3 mois pour récupérer à peu près le niveau moyen qui vous permet de revenir aller sur le circuit. Et puis derrière, encore 3 mois pour retrouver peut-être le niveau que vous aviez au moment où vous êtes blessé. Donc c'est hyper compliqué. Et une jeune fille comme Sophia Kenin, ça a été étrange, hein, puisque c'était cette fameuse année du Covid. Elle arrive à gagner l'Open d'Australie juste avant que tout s'arrête.
Oui.
Donc on est en janvier, fin janvier 2020. Après, hop, tout le monde s'arrête. Elle revient à Roland-Garros en octobre 2020, sous les frimas. Il faisait froid, tout le monde était en doudoune. Elle arrive à aller en finale. Elle se retrouve 4e ou 3e joueuse mondiale. Ça y est, elle est lancée, sauf qu'il y a des blessures derrière, automatiquement, parce que à un moment, votre corps s'est arrêté de jouer pendant pas mal de temps. Vous reprenez la compétition au niveau, vous cassez quelque chose. Il y avait eu un petit problème avec son père. Son chéri de l'époque a fait Paris, on va dire, malencontreux sur le tennis, donc il a été exclu du circuit. Enfin, tout ça, encore une fois, rentre dans la vie hors du cours d'un joueur ou d'une joueuse de tennis qui peuvent complètement vous foudroyer.
Je prends Naomi Osaka, qui pour le coup, elle n'est pas dans les qualifs, mais qui attend un heureux événement et qui, pour le coup, après une période un peu dark, un peu noire, revient en disant voilà, je reviendrai après cette naissance pour
elle
les
espère.
Jeux de Paris 2024, tout comme Lucas Pouille d'ailleurs, qui aimerait bien se qualifier lui aussi pour les Jeux.
Mais tout le monde, mon fils, tous,
oui.
On a l'impression que c'est la carotte de tout le monde.
Oui,
en
c'est
ce
la
moment.
Queue du Mickey au manège, on va décrocher le tournoi.
On a l'impression que tout le monde va arrêter sa carrière après les Jeux.
Oui,
j'ai l'impression que personne ne parle après.
Mais Naomi Osaka, c'est pareil, encore une fois, elle arrive tout d'un coup au devant de la scène comme ça, boum, et gagne l'US Open contre Serena Williams, en plus dans une histoire complètement folle au cours de cette finale. Et puis voilà, elle est numéro 1 mondial, tout se passe bien, c'est génial, sauf qu'elle n'est pas encore majeure, puisqu'elle est américaine de nationalité, sauf que ses parents, eux, étaient au Japon, donc il a fallu qu'elle choisisse sa majorité à l'âge de 21 ans, il a fallu qu'elle choisisse soit je suis américaine, soit je suis japonaise. Sauf que les Japonais lui ont fait des ponts d'or en lui disant « Mais viens au Japon, tu vas avoir des sponsors de partout, tu seras la reine, la diva absolue. » Donc, elle a dit « Ok, d'accord, je prends la nationalité japonaise. » Alors qu'elle était, ses parents sont partis du Japon parce que comme c'était son père était, je crois, haïtien et sa mère japonaise, je crois que c'était quelque chose comme ça. Donc, elle était montrée du doigt parce que c'était pas une vraie japonaise. Elle était exclue un petit peu de tout ce qui se passait quand elle était gamine. Donc, ils sont partis de là-bas pour la faire grandir aux États-Unis, qui qu'il n'y ait pas ce problème de racisme. Mmh. Et là, boum, elle repart au Japon avec des contrats complètement dingues et elle croule sous l'argent. Et on voit bien qu'à un moment ou un autre, elle avait 20 ans, 21 ans, 22 ans. C'est pas possible, vous pouvez pas gérer ça. Regardez Eugénie Bouchard, ça a été pareil. Mmh. Elle a complètement disparu. Kournikova.
Ouais. Après, on a l'air de s'étonner qu'il y ait des carrières fulgurantes comme ça dans le tennis. C'est pas nouveau. Hein.
Pichenet, déjà, aussi. J'ai joué, dans les années 30.
J'ai joué 3 jours, moi. Non, mais c'est vrai que dans les années 70, 80, pour prendre des exemples un petit peu anciens, mais qui peuvent parler à pas mal de monde, on avait beaucoup de joueuses et même des joueurs qui ont eu des carrières qui n'ont duré que 2-3 ans, des carrières fulgurantes. Il n'y avait quasiment que ça. Et c'est peut-être depuis ces incroyables années 2000 où on a eu des carrières extrêmement longue chez les garçons comme chez les filles. Une Serena Williams, ça a duré près de 20 ans et c'est peut-être même pas encore fini d'ailleurs, parce qu'on n'en sait rien avec elle. Djokovic, ça fait pas loin de 20 ans aussi. Federer, plus de 20 ans. Nadal, 20 ans.
Et avant, il y a eu les Américains, les Suédois et maintenant...
Ils avaient des carrières moins longues.
Bah oui. Borg, ça a été très très court.
À 26 ans, il n'en pouvait plus, il a dit j'arrête. Mais il y a des joueuses comme Andrea Jagger, Tracy Austin dans les années 70-80 qui, à 22 ans, étaient des retraitées. Elles ont été parmi les plus jeunes retraitées de toute l'histoire de la retraite.
Mais les blessures, c'est aussi parce que le circuit est de plus en plus dur. Raducanu, par exemple, on peut en parler, elle a été opérée.
Trois fois,
là, j'ai vu. Poignet, de
la cheville,
de la tête aux pieds.
C'est quand même docteur Maboul, quoi.
Bon, on l'appelle Nefertiti maintenant.
Ouais, c'est ça.
Tellement de bandelettes, on ne sait plus. Mais non,
mais c'est encore une fois. Elle est jeune, elle a été finaliste à l'US Open, c'est ça ?
Vainqueur
de l'US Open, pardonnez-moi.
En 2021.
Voilà, en 2021. Donc, quand on voit la photo de cette jeune femme sur son lit d'hôpital avec les deux bras plâtrés et la jambe, elle a le sourire. Effectivement, c'est.
Oui, voilà. Mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire, à un moment ou un autre, ce sont des
donc
jeunes joueurs.
La question, c'est est-ce que le tennis ne broie pas justement des jeunes joueurs comme ça en devenir, avec, comme vous le dites, la possibilité de revenir ou pas, mais il y a une probabilité aussi d'échouer.
Oui, je pense qu'on se trompe.
Est-ce que c'est pas le tennis moderne, enfin professionnel ? Alors on peut toujours dire, il joue plus, le circuit est plus dur, les matchs sont plus intenses. Est-ce que c'est pas trop, quoi,
trop.
Est-ce qu'il y a beaucoup de déchets, quoi.
La saison est beaucoup trop longue. Mm-hmm. On commence le 1er janvier, on finit, mi-novembre. Et on n'arrête pas. Enfin, un joueur de tennis professionnel, s'il veut vraiment essayer de progresser, de gagner bien sa vie, il va jouer quasiment toutes les semaines. Et on perd plus qu'on gagne. Donc, il faut déjà être suffisamment construit mentalement pour accepter ce genre de choses. C'est-à-dire perdre plus souvent que de gagner. Et puis après, derrière, il y a les blessures qui peuvent arriver. Ouais. Parce que, bien évidemment, vous allez à l'usine, quoi. C'est tous les jours. Et ce sont des efforts qui sont monumentaux parce que tous les adversaires sont différents. Tout le monde veut vous battre. Enfin, c'est un sport individuel. Mmh. C'est très, très compliqué.
À l'usine, avec un bon salaire, quand même. Pas un salaire d'ouvrier.
Mais
hein.
c'est un bon salaire, encore une fois. Mais voilà, une fille comme Emma Raducanu, qui a 21 ans, tout pareil, si elle ne se remet pas de ses blessures, elle ne pourra pas rejouer au tennis. Alors oui, bien sûr que là, elle croule sous les contrats. Mais à partir du moment où on ne la voit plus, les sponsors, ils s'en vont. Ouais. Hein.